Et maintenant, c'est l'heure des RLP Sport avec Thomas. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'RLP Sport avec un petit break la semaine dernière, une petite maladie voilà, qui traînait. Et ce soir, nous allons parler et bien sûr de sport et nous recevons Yoann Poirier, le directeur sportif du Cycloclub Périgueux Dordogne. Bonsoir Yoann.
Bonsoir Thomas.
Parle bien dans le micro, ouais. Bon, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation parce qu'on est en fin de saison pour la route. Et en pleine saison pour le cyclocross, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette discipline aussi.
C'est ça, on a terminé la saison route aux alentours du 1er octobre.
Ouais.
Bah après, tout le mois d'octobre est généralement consacré au mercato.
Ah voilà, on va y venir.
et puis, bah, du coup, la saison de cross commence également fin septembre, début octobre. Donc, pour ceux qui font les deux, ils avaient coupé un petit peu plus tôt pour pouvoir enchaîner avec le cross.
Ouais.
Et puis, ben, ceux qui font que de la route principalement ont profité du mois d'octobre pour couper et ça va bientôt reprendre pour...
Voilà, pour la reprise, oui, on ne coupe pas longtemps au vélo.
Non, c'est à peu près 3 semaines vraiment sans sport.
Ouais.
Et puis après, ben, y a la PPG, enfin, voilà, comme tous les sports, c'est reparti pour préparer début février.
Comment s'est déroulée cette saison justement au cycloclub de Périgueux?
Bah, ça a été une bonne saison.
Oui.
Sixième à la Coupe de France, sixième au Challenge National, avec des équipes devant nous qui, quand même, avaient aussi un bel effectif, des belles structures. Je ne pense pas qu'on pouvait faire beaucoup, beaucoup mieux, même si après, forcément, si on est pointilleux, on va dire qu'on peut gagner quelques points par-ci, par-là. Et...
Oui.
Mais le podium était un petit peu loin.
Oui. On a qui par exemple en face de nous là, comme ville, comme club?
Ben, on a Team Briquebec Cotentin du coup qui monte en National 1.
Donc Cotentin, c'est loin.
Voilà, c'est la Normandie. C'est la Normandie. Et après on avait la Vendée avec le team La Roche-sur-Yon.
Des pays de vélo là.
Voilà, et après il y avait comme le team McAllen Cowboy dans l'est de la France. Donc c'était un petit peu réparti quand même un peu partout en France.
Ouais.
Et le niveau était quand même correct sur les 17 équipes.
Ouais.
Je trouve qu'on est à notre place. On avait fait deuxième l'année dernière, forcément, on avait fait une saison,
oui.
J'ai envie de dire, exceptionnelle.
Exceptionnelle,
en 2022.
Ouais.
Et en fait, pour la montée, c'était prévu, comme il y a eu un changement de réglementation à la FFC, c'était une moyenne de 2022-2023. Et du coup, on se retrouvait troisième en N2 sur cette.
En National 2, ouais.
Sur ces moyennes de deux années. Donc, c'est quand même.
Pas
très,
mal.
Très correct.
Très bien. Correct. Et du coup, c'est le premier qui monte?
C'est uniquement le premier qui monte, oui. Tout à fait.
Et donc, il monte en quoi? Parce qu'il y a beaucoup de catégories. On s'imagine, ta team, là, on ne voit pas dans le paysage.
Alors, dans le paysage, il y a trois niveaux professionnels.
Voilà.
Donc, la World Tour.
Donc ça, c'est tous ceux qu'on voit à la télé autour de France.
C'est ça, donc voilà. Les 18 meilleures équipes mondiales, pardon.
Ouais, c'est ça.
Et après, Continental Pro et Continental.
Ouais.
Donc ça, c'est trois niveaux. Donc Continental Pro, c'est Arkea, ce genre d'équipe.
D'accord.
Et Continental, c'est Saint-Michel Aubert, Nice et...
Ouais, ok.
Voilà.
Très bien.
Et après, National 1,
donc ouais.
T'as un niveau amateur, bien que... Ouais. Beaucoup de National 1 ont quand même des coureurs salariés, ou voire la moitié ou les trois quarts font que du vélo.
D'accord.
Et après, National 2, c'est où nous on est, c'est-à-dire qu'en fait, on est au cinquième niveau national, si vous voulez.
Au cinquième ranking, ouais, d'accord. Donc, tu parlais de professionnels, les cyclistes de ton équipe, ils sont plus réactifs?
Ils ont tous une activité professionnelle, ouais. À côté.
D'accord.
Alors, certains avec des temps partiels,
ouais.
D'autres à temps complet, d'autres matin, d'autres après-midi, enfin voilà, mais ils ont leur travail à côté, donc c'est-à-dire que quand on rentre à 2h du matin de Brest un dimanche soir, y en a qui se lèvent à 5h pour aller travailler, donc quand tu as dormi 3h, la récup est courte.
Que tu as fait une course aussi quand même.
Que tu as fait une course de 2-3 jours.
Ouais, ouais. Ouais, c'est sympa, il y a des réveils.
La récup est plus compliquée que ceux qui font que du vélo.
Alors justement, toi, en tant que directeur sportif, Quel est ton rôle au sein de l'équipe?
Alors, mon rôle, c'est assez large au niveau de l'équipe parce qu'il va de la Nationale 2, mais on a quand même beaucoup aussi de catégories
en dessous.
Hein, ouais. Voilà, c'est-à-dire tous les jeunes U19, U17, U15, plus après, en dessous, toute l'école de vélo.
L'école de vélo, j'ai vu, alors, tu vas continuer, j'ai vu des enfants de 5 ans. Inscrit à l'école de vélo.
C'est ce que j'allais y venir. Justement, ouais. On peut s'inscrire au cycloclub Périgueux-Dordogne à partir de 5 ans.
Ouais.
Et c'est Christine Bercouzaro, fidèle au club depuis une trentaine d'années, ouais. Pas loin, qui s'en occupe toujours. Tous les mercredis et samedis.
C'est, ouais.
Mercredi après-midi, samedi après-midi, donc sur la période estivale. Et que le samedi, sur la période hivernale.
Et qu'est-ce qu'on leur apprend? Parce qu'ils savent faire du vélo, mais qu'est-ce qu'on leur apprend?
Alors déjà, ils ne savent pas forcément faire du vélo. Ils savent rouler sur un vélo, mais ouais. Faire du vélo, c'est de la maniabilité, passer entre les quilles, faire un peu de vitesse avec quelques sprints,
d'accord.
Rouler en groupe,
ouais,
ce qui n'est pas toujours forcément évident.
Pas évident du tout même.
Et après, à partir d'un certain âge, on les amène un petit peu sur la voie verte et à partir des U15, c'est moi qui m'en occupe le mercredi après-midi. On va faire des sorties d'une heure et demie, deux heures avec tous les U15, U17 et certains U19 maintenant qui viennent avec nous. Donc on se retrouve à être 10-12, donc ça fait un bon petit groupe sympa et avec un bon niveau chez les jeunes.
Ouais, et avec un très bon niveau même. Et au niveau sécurité, au niveau, c'est toujours compliqué ça, je pense, un groupe de jeunes comme ça.
Ouais, je ne vais pas dire, mais tous les mercredis, il y a des échauffourées avec les automobilistes,
ouais.
Parce que c'est vraiment très compliqué. Je comprends pas qu'on puisse passer à 20 cm des cyclistes quand c'est les enfants qui ont 14 ans.
Mais même, ouais.
Alors que le code de la route, c'est 1m50.
Oui.
Et j'en profite pendant que je suis à la radio pour dire que nous avons bien le droit de rouler à deux de front.
Ouais, côte à côte.
Je vous souhaite, voilà. Je vous demande juste de regarder un petit peu le code de la route. C'est juste autorisé de rouler à deux de front. Ça ne l'est pas dans les virages.
D'accord.
Pour faciliter la visibilité des automobilistes, mais c'est bien autorisé de rouler à deux troncs.
Merci pour le rappel, parce qu'on fait la guerre. Alors, il n'y a pas que les vélos, hein, mais on ne va pas parler de trottinettes, tout ça, mais effectivement, le code de la route intègre bien les cyclistes. Donc, merci de les respecter, et encore plus quand c'est des jeunes, et c'est nos jeunes, là, en Dordogne. Donc voilà, donc ton rôle, tu l'as dit, c'est d'encadrer un petit peu, de chapeauter le club. Également
sur la partie sportive.
Sur la partie sportive, voilà. Ouais.
Après, quelques plans d'entraînement pour certains coureurs.
Ouais.
Et après, tout ce qui est programme de course et logistique pour toute la saison, notamment les stages aussi en début de saison. Plus après, tout ce qui est programme de course du début février à fin septembre.
C'est amateur, mais dans le fonctionnement, c'est professionnel quand même.
On s'est professionnalisé,
ouais. Ouais,
parce que c'est vrai que... on n'en était pas là en N2 il y a 10-15 ans, mais c'est comme dans tous les sports en fait. Tout est redescendu dans les niveaux. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en N2, si on n'est pas hyper bien structuré, on n'est plus au niveau en fait.
Ouais, ouais, bien sûr.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye de mettre les coureurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent prendre le départ des courses serein.
Ouais, serein et dans les meilleures conditions. Ils habitent tous sur Périgueux
Non, ils sont tous à environ une heure et demie de Périgueux aux alentours, c'est-à-dire de Bordeaux, Angoulême, Limoges.
Brive,
Villeneuve-sur-Lot, enfin voilà.
D'accord, ok. Donc ils ont des programmes spécifiques.
La plupart en Nouvelle-Aquitaine.
D'accord. Et ils ont des programmes spécifiques quotidiens.
Alors il y en a qui ont leur entraîneur perso, il y en a certains que c'est moi qui entraîne. Et donc après, oui, c'est plutôt, on va dire, moi je m'occupe plus de la partie globale.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je mets l'échéance, le fil rouge de l'année sur les Coupes de France, les stages. Je leur envoie un programme au début de saison, début janvier, avec le programme de l'année à 90%, parce qu'après, on aménage forcément selon où est-ce qu'on est pris ou pas aussi, ou invité ou pas sur certaines courses.
Ouais.
Mais ils ont tous, début janvier, le programme de l'année.
D'accord.
Et ça permet aussi à moi de savoir quand est-ce que je fais couper l'un ou l'autre. Parce que bon, quand on part sur les courses par étapes, par exemple, c'est 6 coureurs.
Oui.
Coupe de France, c'est 6 coureurs. Donc, quand on a un groupe de 12, 14,
c'est ça, ouais.
On essaye de faire tourner l'effectif. Et surtout, ce qui est important encore cette année où j'ai recruté pas mal de jeunes, c'est surtout de les intégrer et qu'eux puissent aussi progresser auprès de ceux qui sont expérimentés.
Parce que même dans l'équipe de National 2, là, il y a tous les âges.
Il y a de tous les âges. Ça va de 19 ans, c'est-à-dire ceux qui sortent de junior, U19. À 39.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
On a quand même des anciens, c'est bien.
On a des anciens, mais après, il faut aussi des capitaines de route pour pouvoir driver sur le vélo et transmettre un peu les infos qui sont données au départ au briefing, parce que nous, on n'a pas d'oreillette, je le rappelle, par rapport aux professionnels.
Voilà, ouais.
C'est-à-dire que les informations qui sont données à peu près une heure avant le départ, que je leur donne, du moins.
Ouais.
Au niveau du briefing, une heure avant le départ, après, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui retransmette sur le vélo ou aussi quelqu'un qui vienne à la voiture derrière chercher les informations pour pouvoir les retransmettre aux coureurs qui sont sur le vélo.
Comment on suit, quand on est dans la voiture d'un directeur sportif, comment on arrive à suivre la course? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours...
Grâce à Radio Tour, en fait, et aux informations qu'on a.
Ouais. Donc Radio Tour, c'est la même chose que quand il y a le Tour de France.
Exactement pareil. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toutes les infos. Dès qu'il y a une échappée, on a la composition, le temps. Pour entrer un peu dans le détail, c'est-à-dire que quand il y a une échappée qui prend plus d'une minute, on a à ce moment-là le droit de doubler le peloton pour venir devant,
derrière l'échappée, ouais.
Et donner nos instructions.
D'accord.
Tactique.
Ouais. Ouais, tactique.
C'est exactement la même formule qu'au Tour de France.
D'accord.
Sauf que nous, on n'a qu'une seule voiture qui suit, alors qu'eux en ont deux parce qu'ils ont déjà plus d'effectifs.
Ils ont plus de coureurs. Ouais.
Et puis, eux, comme ça leur permet d'avoir une voiture à l'avant, une voiture à l'arrière.
On ne va pas se cacher, le cyclisme, c'est un des sports les plus difficiles. On parle de natation, on parle de cyclisme, je suis admiratif de voir les efforts et on se rend pas compte des sacrifices que font les coureurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça?
Après, moi j'ai quand même été cycliste, donc en première catégorie ou élite, enfin.
Ça a changé plein de fois. C'est pour ça que j'étais perdu quand j'ai préparé.
Pendant 15 ans, c'était déjà compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très pointu, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sommeil, des entraînements, du temps d'entraînement, du temps de récupération, l'hygiène de vie, la famille. Il faut concilier tout. Il faut vraiment que... J'ai envie de dire que la partie entraînement, c'est même pas 50%.
D'accord, c'est même pas 50%.
Non. Il y a tellement de psychologie qui rentre en compte, de mental. Enfin, si aujourd'hui on fait appel aux préparateurs mentaux, c'est pas pour rien, c'est que c'est très très compliqué d'être sportif. Nous, on n'est pas considéré comme sportif de haut niveau, mais on n'en est quand même pas très loin.
Ouais, on le touche quand même.
Quand on fait entre 15 et 20 000 km à l'année en vélo, on peut se dire qu'on n'est pas très loin quand même du sportif de haut niveau.
Ouais, y en a qui ne les font pas en voiture. Donc.
et c'est vrai que c'est de tout conjuguer, c'est très compliqué. On se rend compte qu'on a de moins en moins le droit à l'écart, en fait.
D'accord.
Parce que les niveaux augmentent de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, ça roule de plus en plus vite. Bah, chez les pros, mais chez nous aussi. Et parce que nous, ceux qui ont 19-20 ans, nous, tous les week-ends, hormis les Coupes de France N2, tous les week-ends, on court avec des nains. Donc, ça veut dire qu'en fait, tous les week-ends, on court avec des coureurs qui font que du vélo. C'est-à-dire que si on n'a pas le niveau, au bout de 30 km, la course, elle est finie. On est dehors.
D'accord. Ouais, les courses, c'est à peu près de combien?
C'est entre 140 et 180, selon les difficultés, le dénivelé, si c'est circuit, si c'est en ligne, et puis du niveau de la course. Quoi.
Ouais, d'accord, ok, donc ça fait quand même des bornes.
Ah oui, c'est minimum 3 heures de course. Quoi.
3 heures de course, d'accord. À des moyennes avoisinant les quoi les...
On va dire qu'on est à 42, c'est entre 42 et 45.
Ouais, 42, 45. Essayez de monter juste sur votre vélo à 42 ou 45 km/h pendant 2 km.
Le plus qu'on ait fait, c'est l'année dernière, il y a 2 ans, à la Sologne, on a fait 49,9.
Ouais, mais là, c'était
sur 175 km.
Ah oui, 50 km/h.
49,9.
Ah oui, quand même.
C'est-à-dire que si vous imaginez avec les ronds-points, les villes qu'on traverse, les Dodanes, tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout le temps roulé à 50, 3-4, je pense, tout l'après-midi.
Ouais, c'est éprouvant.
Enfin, après, c'est vrai que la Sologne, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, plat, mais il faut quand même le faire.
Bah, oui, c'est plat, mais oui, mais on a des endroits plats aussi, nous. Mais oui, donc on a parlé donc, du coup, de cette saison qui s'est terminée, là, ce mix des deux saisons avec un très beau résultat. Donc, tu as parlé de Mercato, là, qui s'est clôturé il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on a des surprises, des arrivées, des départs
Oui, on a des surprises, forcément. Enfin, des surprises. Moi, ça n'en est pas une pour moi, parce que, voilà, comme tout le monde le sait, ou presque maintenant, Tito Margherita a quitté le club c'est au Mercato, justement.
Ouais.
Après 3 belles années chez nous. D'ailleurs, je le remercie pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'on a... Même moi, en tant que directeur sportif, j'ai vécu des très, très belles émotions. Notamment, on a encore parlé encore entre nous il y a 15 jours sur un cyclocross où c'est vrai qu'on parlait de la Coupe de France N2 quand il a gagné l'année les boucles de la Charente-Maritime,
ouais.
Le classement général. Et c'est vrai que c'était vraiment une des... Enfin, de gagner un classement général, c'est quand même très, très beau sur 3 jours. Enfin,
oui, il faut... Ouais,
surtout avec tout ce qu'il y a à côté, avec l'équipe, le staff et tout, c'était vraiment... une très belle performance de pouvoir monter sur le podium sur une Coupe de France.
Ouais, c'est magnifique.
Et puis forcément de finir deuxième de la Coupe de France l'année dernière et de monter sur le podium, c'était vraiment très beau aussi.
Ouais. Bah ouais, bien sûr.
Donc il a fait 3 belles saisons chez nous et on en a discuté un petit peu là depuis fin août, on en discutait et puis il avait ce souhait de changer d'équipe, de programme, de course, de groupe.
Autre chose.
De voir autre chose, exactement. Ouais. Il a 27 ans et
c'est maintenant.
Comme il me disait, s'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Donc il est parti dans une autre N2 qui a un programme de course un peu plus à l'est de la France que le nôtre. Et je pense que c'est bien pour lui. Ouais, ça lui permettra de voir autre chose.
Ouais, il a porté son expérience. Enfin, il a porté des résultats, l'expérience. Et puis c'est bien.
C'est ça. Donc après, on a perdu aussi Romain Feuillu, mais pour des problèmes un peu différents, problèmes perso.
Ouais.
Et puis après...
Romain Feuillu qui a été maillot jaune du Tour de France. Hein.
C'est ça,
voilà.
Tout à fait.
Voilà, qui faisait partie, c'est un très bon gars.
Après, on a perdu quelques autres coureurs, notamment Julien Lamy, donc, qui était le plus ancien.
Oui.
Qui avait 49 ans, du coup, et qui a arrêté la compétition de haut niveau pour se lancer dans le triathlon. Parce que ça fait longtemps qu'il en avait envie et il voulait faire un Ironman, donc ça sera en 2024.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même, ouais.
C'était un de ses projets et c'est bien pour lui aussi. Donc,
bien.
On a renouvelé, on a perdu quelques coureurs, mais on a renouvelé aussi de notre côté en recrutant Louis Lapierre, qui était au top 16 en National 1.
Ah oui.
Qui est un très bon sprinter. Donc je pense qu'avec Lucas Aumenier, ça peut faire 2 bons sprinteurs, notamment sur les Coupes de France qu'on a, justement la Sologne et la Diane Classique en début de saison.
Suivant comment est la typologie, la typographie.
Donc on a deux Coupes de France qui correspondraient bien, très bien même à ces deux coureurs. Et on a recruté également Théo Laffineur qui était aussi à l'Occitane, lui.
D'accord.
Et après Benjamin Maistre qui lui était en Guadeloupe l'année dernière.
Ouais.
Un très bon grimpeur, conseiller que je ne connaissais pas plus que ça, mais qui m'avait été conseillé par Brice Feuillu, donc je pense que...
Le frère de Romain, oui.
Donc voilà, donc on a reconstitué une équipe et après, tous les
autres... L'ossature est restée.
Voilà, tous les autres sont restés. Clément Saint-Martin, sur qui je vais forcément beaucoup compter en 2024, parce que...
Je l'ai noté.
Qui sera certainement un des leaders en 2024 également sur les circuits un peu difficiles. Et puis après, tout le reste du groupe est resté, que ce soit Aurélien Pasquet, Kalum O'Connor.
Kalum O'Connor reste aussi.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Donc l'expérience. On va dire que le noyau, hormis Titouan, le noyau est resté.
Ouais, le noyau est resté en se renforçant. Comment on construit une équipe ? Les grimpeurs, les sprinteurs, il y a des équipiers, il y a qui est leader, qui... Enfin, comment on construit une équipe ?
J'ai envie de dire qu'on construit une équipe par rapport à son programme ou son programme par rapport à une équipe.
D'accord.
Nous, notre programme, il est quand même plutôt basé ouest, nord-ouest de la France.
Oui, avec des gros déplacements.
Avec notamment les Pays de Loire, la Bretagne, la Normandie.
Ouais. Ouais.
Parce que c'est toujours le genre de course qui nous a plus convenu par rapport à l'effectif qu'on avait ces dernières années. Et c'est vrai que du coup, ça a été recruté aussi encore par rapport à ça cette année.
D'accord.
Parce qu'on n'a pas forcément, à part Benjamin du coup qui vient cette année, mais on n'a pas forcément de pur grimpeur. Et d'aller faire des courses à l'est de la France, Rhône-Alpes.
Oui, là, c'est sûr. Oui, là.
On est un peu moins à notre avantage.
Ouais, d'accord.
Donc, du coup, c'est vrai que je construis mon effectif surtout par rapport à ça. Parce qu'on a quand même plus de routiers sprinteurs dans l'équipe que de grimpeurs.
D'accord, ok. Par rapport à la région dans laquelle on tourne.
Exactement.
Est-ce que tu, en tant que directeur sportif, est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se fait au niveau pro ? Est-ce qu'il y a des directeurs sportifs qui t'inspirent au niveau peut-être tactique de course, au niveau accompagnement psychologique de certains ? On a vu certains directeurs sportifs un peu rentrer dans l'art de certains il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu t'inspires de certains ?
Franchement, non. J'ai pas forcément de directeurs sportifs sur lesquels je vais me baser. Et après, j'aurais plutôt des philosophies d'équipe,
ouais,
qui me semblent plus,
ouais,
qui me semblent plus structurées, qui me semblent plus, comment dire, plus pointues que d'autres. Après, voilà, j'ai pas spécialement de. Après, voilà, je connais quand même quelques directeurs sportifs,
ouais,
pas mal, même du coup.
Tu connais du monde, oui.
Oui, voilà, chez les professionnels. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et après, ils ont un rôle un petit peu différent du nôtre, parce que c'est vrai qu'avec. Alors, je vais pas reparler de l'oreillette, mais ils ont un petit peu cette facilité quand même de pouvoir ajuster leur course.
Intervenir plus facilement, ouais.
Tout à fait.
Ouais. D'accord.
Oui. Tout au long de la course. Mais moi, j'aime bien les directeurs sportifs qui sont attaquants.
Ouais, qui aiment quand ça attaque.
Ouais, il faut qui font la course, qui voilà. Après, j'aime bien quand il y a de la course, que ce soit pas trop attentiste, et même si après on sait très bien que, alors, je vais pas parler des grands tours parce que là c'est très particulier.
Ouais.
On a 8 coureurs au départ avec des sprinteurs, avec des grimpeurs.
Oui, il a une équipe complète.
Donc
voilà,
là c'est très différent. Mais sur les courses d'une journée, ouais, c'est bien quand on a des directeurs sportifs qui sont attaquants et. J'aime bien.
Et on a maintenant alors une nouvelle génération en France, quand même, qui est arrivée depuis 7-8 ans, là, de coureurs, avec cette philosophie-là. On pense quand même qu'on va finir par y arriver, à avoir un grand champion, comme on peut trouver dans des pays assez improbables, comme la Slovénie, par exemple. Est-ce que tu penses réellement qu'on est sur la bonne voie pour avoir un bon grand champion? Ça va être dur.
Si je dois honnêtement répondre,
oui,
je dirais non.
Non, tu dis non. Ok, très bien, d'accord.
Donc, je dirais non, mais j'irais beaucoup plus loin que ça dans la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le problème, il ne vient pas que du côté sportif. Aujourd'hui, on a un réel problème dans le système scolaire français, mm-hmm, qui ne laisse pas assez de part au sport.
Ah ben ça,
en général.
Il y a eu même un débat à la radio à midi. Voilà.
Bah, j'ai pas entendu. Mais du coup,
non, mais pas nous, mais sur une autre radio nationale,
ouais,
où ouais, ça a été le débat aussi.
Oui, ouais, mais parce que pour moi, on a un réel problème par rapport à ça. C'est-à-dire que la majorité maintenant des pays européens, on court 8h-13h, 8h-14h pour laisser le temps justement aux jeunes de pouvoir se développer dans leur sport. Nous, on sait très bien que le vélo, là, cette période de l'année, à 5h, il fait nuit.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, comment on fait quoi? On fait de l'home trainer toute la semaine? On fait comment?
Ouais.
Ou alors, on est des pistards, on va à la piste de Bordeaux, donc là, forcément, c'est bien. Mais quelqu'un qui est cyclocrossman, il fait comment pour préparer? Il fait que l'home trainer toute la semaine?
Dans les bois, c'est un peu compliqué.
Non, mais c'est très compliqué.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Donc, c'est quoi? C'est de déscolariser, comme je vois certains jeunes aujourd'hui en U19 qui sont déjà déscolarisés chez Acadomia pour pouvoir faire du sport de haut niveau à côté. Moi, je pense pas. Je pense que si. En France, aujourd'hui, on est obligé de choisir. C'est-à-dire qu'on est...
Oui, je comprends.
Non, il y a quand même beaucoup des sportifs qui sont ingénieurs, mais il y en a très peu, en fait.
Ah oui, très, très peu. On les met en avant, mais ouais.
Mais je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à accorder le système scolaire et le système sportif, on ne pourra jamais, en fait... moi, je pense que ça développe... l'un développe l'autre, en fait.
C'est-à-dire exactement,
que, on a besoin des deux pour se développer.
On l'entend dans tous les sports.
Et je pense que le problème, il vient de là.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième... C'est la création, pour moi, de toutes ces continentales qui, aujourd'hui, appauvrissent, alors économiquement, premièrement,
oui,
et sportivement, le monde amateur, au moins dans le vélo.
D'accord.
Parce que, Pour moi, quand on est U19, qu'on sort de junior, qu'on passe directement en continental, ben, des Romain Grégoire ou des Lenny Martinez, il n'y en a pas non plus. Je veux pas être méchant par rapport à tous ceux qui passent, hein, c'est pas le truc, mais c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la capacité d'avoir un volume de 20 000 ou 25 000 km d'entraînement à 19 ans. Enfin, ouais, on n'est pas tous capables d'encaisser ça.
Non.
Moi, à mon époque, on en faisait 10 ou 12 000 quand on sortait
de
19.
Ouais.
Aujourd'hui, on nous dit qu'à moins de 18 000, on ne fait pas des bonnes saisons. Pour moi, c'est pas possible, en fait.
D'accord, ok. Très bien, le message est passé, mais on est absolument d'accord là-dessus. Au cycloclub de Périgueux, il y a aussi une part faite aux féminines. Y a avec des résultats en plus, donc c'est aussi important la féminisation du.
C'est très important, surtout qu'on voit qu'au niveau national ça commence vraiment à se. Enfin, ouais, national et international, oui. Où ça commence vraiment à se structurer. Moi, pour avoir été quelques jours cet été là sur le Tour de France féminin, on voit quand même des belles courses et un niveau quand même de plus en plus élevé chez les féminines, même si le niveau est beaucoup moins homogène que chez les garçons, forcément. Mais par contre, on voit qu'au niveau international, vraiment, ça commence à aller vite.
Ouais, ça commence à aller vite. Et c'est bien parce que ça, c'est un sport... Ça redonne une bonne image, de toute façon, quand il y a un peu de féminisation et quand on intègre aussi dans les clubs.
Mais parce qu'aujourd'hui aussi, les femmes sont athlétiques. Enfin, physiquement, elles sont vraiment très athlétiques. C'est des vraies... en vélo, en course à pied, dans le foot.
Partout.
Partout. Oui, ça, ouais. Ça s'est vraiment démocratisé et le sport féminin a vraiment pris de l'ampleur. Et oui, donc c'est vrai que dans le club, on a quand même quelques féminines en école de vélo, mais aussi en U17. Ouais. Du coup, on en a deux avec Clémence et Thaïs.
Et Thaïs, ouais.
et donc oui, on essaye de les amener vers le haut niveau.
Ouais, c'est bien. Mais ça, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on à Périgueux, on sait que le club également organise des courses. Et notamment le critérium de la ville de Périgueux, qui est quand même un bel événement, mais qui pourrait peut-être se développer un peu plus.
Je pense qu'il y a matière à pouvoir faire quelque chose de spectaculaire. Ouais, alors j'attends que la mairie termine les travaux boulevard Montaigne, comme ça le message est passé.
Je veux dire à Paul Mazot aussi.
Ah, mais ils le savent, j'aurais déjà dit plusieurs fois. Mais c'est vrai que je pense que je pense qu'il y a moyen de faire une belle course sur les boulevards.
Ouais. Et la ville s'y prête en plus.
Ouais, c'est ça. Et puis, cette année, il faisait un petit peu moins beau, mais en 2022, on avait eu quand même pas mal de spectateurs à l'arrivée. Et de plus en plus. Donc après, peut-être aussi à nous de développer un petit peu la communication. Mais je pense qu'il y a matière sur ce terrain-là à faire un beau spectacle. Comme il peut en être dans certaines autres villes. Ouais.
Ouais, oui, parce qu'on en parlait un petit peu avant, il y a plein de critériums qui ont disparu. Et pour les amateurs de vélo, maintenant, aller voir une course, ça devient compliqué.
Ça devient compliqué parce que c'est de plus en plus loin.
Et voilà.
Et ça devient compliqué parce qu'il y a de moins en moins de coureurs aussi au départ. Donc ça fait peut-être aussi un petit peu moins de spectacle pour les gens.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi moins de licenciés. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Et puis bon, le Covid aussi.
Ouais, voilà, j'allais venir. Ça vous a pas.
Non, même si depuis quand même 2 ans, là, on voit que du coup, ça remonte en termes de licenciés. Mais le plus dur a quand même été du côté des bénévoles, où là, enfin, je pense que tous les sports ont.
Toutes les émissions, on y a droit.
Mais non, mais c'est vrai que le Covid a vraiment. Du côté du bénévolat, vraiment. Ça a été encore plus compliqué que du côté sportif.
Ouais. Au club de Périgueux, là, il y a combien de bénévoles à peu près?
Il y a 90 licenciés dans le club.
90 licenciés.
Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié de bénévoles qui nous accompagnent, qui nous aident, que ce soit sur une organisation cycliste, on en a 7 ou 8 à l'année. Et après, on organise quelques lotos aussi, parce que voilà, côté économique aussi.
Hein, c'est un budget. Hein.
Nous, le budget, c'est quand même 160 000 euros à l'année.
160 000 euros à l'année.
Alors, ce qui n'est pas énorme, si on compare à un sport collectif du même niveau que nous, par exemple.
Ouais.
Mais c'est déjà quand même un beau budget. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident de boucler le budget tous les ans, surtout qu'on voit, ben, on est forcément impacté par toutes les augmentations, que ce soit le gasoil, le péage, les hôtels, enfin bon. Voilà.
Ah ouais, on sait, partout. On va arriver à la fin de l'émission. Johan, en tous les cas, merci d'être venu. Je sais qu'il y a l'Assemblée Générale qui doit avoir lieu samedi, non ?
C'est ça, tout à fait.
Ouais, donc à la filature de Lille. Donc ben voilà, si vous voulez donner un coup de main aussi au club et puis croiser nos champions, ce serait allez-y, parce que c'est un club sympa et qui répond toujours favorablement aux demandes. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Jean Mespouled, qui a réussi la performance d'être vice-champion du monde de Gravel, c'est ça ? En gravel.
Catégorie master. Oui.
Ouais, en catégorie master, 40-45 ans. Donc, un petit salut, parce que je l'entends depuis longtemps, ce nom. et voilà. Donc, ben, merci, Johan.
Et derrière, ouais, Johnny Hoogerland, quand même, qui était professionnel chez Vacances Soleil.
Ouais.
Donc, c'est une belle performance.
C'est une très, très belle performance. En tous les cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP Sport, c'est fini, mais l'émission est toujours disponible en podcast sur le site de RLP. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. RLP Sport, en direct, tous les mardis à 19h avec Thomas Delpero.